Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un, pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité ? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord ?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide. Bonjour, bonjour, je suis Diane et vous écoutez La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil. Chaque semaine, on regarde comment le sexisme s'infiltre partout, dans nos mots, nos images, nos réflexes, et comment il continue de limiter ou de dévaloriser des personnes à cause de leur genre. Parfois frontal, parfois bien déguisé, mais toujours là. Aujourd'hui, on tire un fil particulièrement révélateur, le sexisme en politique. On commence avec une voix que vous reconnaîtrez sûrement.
Le sexisme traverse la politique d'une manière tout à fait importante. Il y a un effet en quelque sorte pervers des textes qui ont été votés, oui. Par exemple sur la parité. C'est-à-dire qu'on dit la question est réglée, le sexisme n'existe plus. Mais enfin, quand on voit que pour autant il n'y a que 20% de femmes maires, oui. Ou présidentes de conseil départemental ou régional, qu'on nous met systématiquement dans des postes moins importants, les postes, disons, de gestion pure à l'économie ou à l'aménagement sont réservés aux hommes, bien entendu, le sexisme est épouvantable.
Dans cet extrait, on l'entend, Roselyne Bachelot ne parle pas uniquement de son parcours personnel, mais de ce qu'elle a observé année après année en politique. Elle décrit un système et une mécanique vraiment bien huilés. Des remarques sur l'apparence, des sous-entendus permanents et une parole féminine qui est constamment soupçonnée de manquer ou de sérieux ou de légitimité. Elle met des mots sur ce constat partagé par beaucoup de femmes en politique, cette impression diffuse qu'il faut toujours en faire davantage, qu'il faut être plus solide, plus irréprochable, simplement pour être écouté à égalité. Et ce constat, il ne date pas d'hier, il se rejoue encore et encore. On se souvient assez récemment de Donald Trump qualifiant Giorgia Meloni de belle jeune femme, comme si son apparence méritait plus de commentaires que ses positions politiques. On pense aussi à Cécile Duflot, en 2012, huée à l'Assemblée nationale, non pas pour son discours, mais parce qu'elle avait eu le malheur de porter une robe à motifs. De Pauline Rapi-Ferniaud, à qui on a coupé le micro en plein conseil municipal parce que ce qu'elle était en train de dire dérangeait le maire. Ou encore cette anecdote hallucinante racontée par Najat Vallaud-Belkacem, qui expliquait qu'en conseil des ministres, François Hollande avait fini par interdire les téléphones parce qu'il avait remarqué que lorsque des femmes prenaient la parole, certains collègues jugeant probablement moins intéressant ce qu'elles racontaient, se plongeaient sur leur écran. Ces scènes disent toutes la même chose. On écoute moins les femmes, on les interrompt plus, on minimise leurs propos, on les discrédite et on les décrédibilise. La politique reste largement perçue comme un domaine d'hommes et tout ça, ce n'est pas qu'un ressenti. Des chiffres le montrent. Par exemple, à l'échelle mondiale, moins d'un pays sur 10 est dirigé par une femme, et quand elles accèdent au pouvoir, elles sont aussi davantage scrutées, commentées, attaquées. Même quand elles entrent dans le club, on leur rappelle très vite qu'elles n'en feront jamais vraiment partie. C'est ça le patriarcat politique, un espace historiquement construit par et pour les hommes, où les femmes doivent constamment prouver leurs compétences, sans jamais avoir le droit à l'erreur. Une erreur commise par un homme, c'est simplement une gaffe. Une femme, elle, ça devient une confirmation d'incompétence. Alors oui, on entend pas mal aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui c'est bon, il y a la parité, ou les quotas, ça a vraiment permis à plus de femmes d'entrer en politique. C'est vrai, mais y entrer, ça ne veut pas dire y être respectée. Car une fois élues, on l'a vu, les femmes, elles subissent davantage de violences verbales, plus de commentaires sur leur apparence et une mise en doute de leur légitimité. Près de 8 femmes politiques sur 10 déclarent avoir subi des propos ou comportements sexistes et plus d'une sur 2 évoquent également des violences verbales ou symboliques dans l'exercice même de leurs fonctions. La parité, ça ne fait pas disparaître le sexisme, elle le rend simplement plus visible. Pourquoi c'est important de venir en parler? C'est parce que la politique, c'est l'endroit où l'on décide pour tout le monde. De qui est représenté, qui parle, qui est entendu. Par exemple, une assemblée qui serait majoritairement masculine, elle ne peut pas, à elle seule, refléter et la diversité des expériences, et des trajectoires, et des réalités vécues. La question, c'est donc pas seulement de combien de femmes siègent, mais dans quelles conditions elles le font. Parce que être présente sans être écoutée, visible sans être prise au sérieux, c'est pas vraiment ça, la représentation. Et surtout, la présence des femmes, ça change les choses. Non pas parce que toutes les femmes seraient de fait plus progressistes ou exemplaires, c'est évidemment pas le cas de toutes, mais parce que la liberté des points de vue, ça transforme les priorités, les sujets mis à l'agenda seront peut-être différents, les manières de faire aussi. On l'a vu par exemple au Rwanda, après le génocide, le Parlement était majoritairement composé de femmes. Et ça s'est vu clairement, les politiques publiques ont largement investi les questions sociales, de santé, d'éducation et de reconstruction. Tout ça, c'est pas une question de nature, c'est une question de socialisation, d'expérience, de regard croisé. C'est pour ça que c'est important d'avoir des diversités de points de vue, des femmes. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça? D'abord, il faut reconnaître que le sexisme en politique, ça existe, que ça relève ni de l'humour, du jeu politique ou de sensibilité personnelle. Ensuite, on peut essayer de se fixer des règles assez claires, c'est qu'il faut sanctionner réellement les propos sexistes, qu'ils aient lieu ou dans les assemblées, les médias ou même en ligne. Protéger efficacement les élus face aux violences, notamment aux vagues de cyberharcèlement, qui constituent vraiment aujourd'hui un des principaux freins à l'engagement. Former également les partis, leurs cadres, leurs équipes, pour que ces comportements cessent d'être minimisés ou excusés. Et surtout, accompagner, soutenir. Refuser collectivement que vivre du sexisme, ce soit le prix à payer pour accéder à la sphère politique. Parce que s'engager en politique, ça ne devrait jamais impliquer d'apprendre à encaisser. Le sexisme en politique, ce n'est pas un détail, il touche précisément les lieux où se concentrent le pouvoir et les prises de décision. Du coup, le comprendre, c'est déjà commencer à rééquilibrer les choses, à redonner de la valeur, de la crédibilité, de l'espace à celles qu'on a trop longtemps tenues à distance. Et c'est à ça que sert la pelote du sexisme. Tirer les fils, un par un, pour voir comment ce système s'est tricoté et comment ensemble on peut commencer à le détricoter. Parce que la pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.
Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un, pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.